Il est 8h sur France Culture. Tout de suite, le journal avec vous, Catherine Dutu. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Les députés socialistes s'alignent finalement sur la proposition du groupe Les Républicains. L'état d'urgence est prolongé de 6 mois au lieu de 3. Vote massif cette nuit à l'Assemblée. Débat marathon, tension, suivi par Stéphane Robert.
L'état d'urgence prolongé, nouvelle levée de bouclier des avocats et des défenseurs des libertés individuelles. Reportage également dans votre journal de Cécile de Kervas-Doué.
Aux États-Unis, Donald Trump conquiert le Parti républicain, officiellement désigné cette nuit comme le candidat du Grand Old Party à la Maison-Blanche pour l'élection de novembre. Correspondance de Frédéric Carbone.
En Turquie, des milliers d'enseignants et de doyens d'universités publiques forcés à la démission. 24 chaînes de télévision, de radio privées, de droits de diffusion. Le régime Erdogan poursuit ses purges après le putsch raté de la semaine dernière. Catherine Dutu.
Et puis à 16 jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques de 2016, la Russie ignore encore si ses sports seront du voyage à Rio. Le comité international olympique se laisse du temps pour trancher sur le cas de ce poids lourd du sport mondial et du dopage. La France en état d'urgence pour 6 mois supplémentaires. Les députés ont massivement voté cette nuit en faveur d'une prolongation de ce régime d'exception. 489 voix pour, 26 contre. Les députés du Front de Gauche et une poignée d'écologistes ont, comme les fois précédentes, voté contre ce projet de loi qu'ils jugent inefficace dans la lutte contre le terrorisme. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour Catherine.
Stéphane, ce vote à une large majorité cache pourtant de vives tensions au moment des débats.
Oui, les débats ont été parfois tendus avec une partie de la droite, notamment avec les députés proches de Nicolas Sarkozy, Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, le président de groupe Christian Jacob, ou encore Laurent Wauquiez, qui réclamait qu'on puisse placer en rétention des personnes fichées S par les services de renseignement.
Est-ce que nous attendons le passage à l'acte, ou est-ce que nous nous dotons d'outils juridiques qui permettent de mettre hors d'état de nuire des individus suspects avant qu'ils ne passent à l'acte?
Manuel Valls a répondu assez vertement à ces réclamations sécuritaires, notamment à Christian Jacob et à Laurent Wauquiez qu'on vient d'entendre. Les circonstances imposent parfois de restreindre certaines libertés pour le temps qu'il faut, a convenu le Premier ministre. Mais on ne peut pas mettre en place de législation d'exception.
La notion même de suspect, Monsieur Wauquiez, a entraîné ce pays à des moments donnés, dans son histoire, au cours de ces deux derniers siècles, dans le pire. Et s'il y a, Monsieur Wauquiez, quelque chose qui nous sépare, pas la gauche et la droite, mais vous, c'est cette différence fondamentale de la démocratie et de la République.
Voilà le résultat final avec le vote intervenu après plus de 7 heures de discussion et aux alentours de 5 heures ce matin, ne reflète pas vraiment, vous l'avez dit, ces échanges parfois un peu vifs, puisque les députés ont approuvé la prolongation de l'état d'urgence pour une période de 6 mois, jusqu'au 26 janvier prochain donc, par 489 voix pour et 26 contre, mais la droite avait dit avant le début des discussions qu'elle ne pouvait pas se permettre de ne pas voter en faveur de cette prolongation.
Et justement, cette nuit, qu'est-ce que les députés ont voté précisément dans ce projet de loi?
Eh bien, outre la prolongation pour une période de 6 mois au lieu de 3 mois, les perquisitions administratives sont à nouveau autorisées. Elles avaient été supprimées lors de la précédente prolongation de l'état d'urgence en mai dernier. Et ça suite à une décision du Conseil constitutionnel du mois de février qui avait estimé que les données informatiques saisies lors de ces perquisitions ne pouvaient pas être utilisées. Ça rendait les choses pas très utiles. Là, des dispositions ont été prises pour permettre l'exploitation de ces données informatiques. Et du coup, les perquisitions administratives sans contrôle judiciaire préalable donc sont à nouveau permises. Et puis deux amendements déposés par la droite ont été validés par les députés. L'un autorise les policiers et gendarmes à fouiller les véhicules sans justification préalable et à n'importe quel moment. L'autre prévoit qu'il n'y ait potentiellement plus de réduction de peine pour les personnes condamnées pour actes de terrorisme. En tout cas, que ces réductions de peine ne soient plus automatiques. Le texte maintenant va partir au Sénat pour être à nouveau discuté et amendé. Le gouvernement a indiqué qu'il pouvait encore y avoir quelques évolutions.
Merci beaucoup Stéphane Robert pour toutes ces précisions sur la prolongation de l'état d'urgence voté donc cette nuit par les députés. Ce texte et toutes les mesures d'exception qu'il permet provoquent déjà une levée de bouclier des avocats et des défenseurs des libertés individuelles. Le reportage de Cécile de Kervas-Doué.
Surenchère, escalade, fuite en avant, démagogie, les défenseurs des libertés sont unanimes à condamner ce nouvel état d'urgence. Ils pointent aussi l'incohérence de cette nouvelle mesure parce qu'il y a cette loi de renforcement de la lutte contre la délinquance et le terrorisme adoptée le 3 juin dernier et qui comprend la plupart des mesures de l'état d'exception. Michel Toubiana est le président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme.
La loi du 3 juin a permis de judiciariser une partie de l'état d'urgence avec des perquisitions sur ordre des magistrats. Mais comme cela ne semble même pas suffire au gouvernement, il a rétabli la pratique des perquisitions administratives, dont on sait qu'elles ont été menées sans résultat et souvent avec des violences. Je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui, 70 personnes vivent assignés à résidence et ayant perdu leur travail, obligés de pointer sans que la moindre poursuite judiciaire n'ait été entamée.
Depuis novembre dernier, plus de 3000 perquisitions administratives n'ont abouti qu'à 67 condamnations. Les attentats qui ont été déjoués l'ont été dans le cadre de procédures policières classiques. Alors bien des avocats pointent aujourd'hui du doigt l'efficacité douteuse de ces mesures d'état d'urgence. Françoise Matt est avocate à Toulouse. Elle est aussi la présidente de la commission Liberté Droits de l'Homme du Conseil National des Barreaux.
En tout cas, ça n'a pas permis d'éviter l'attentat de Nice. D'autre part, on a vu des perquisitions qui concernaient des militants écologistes dans le cadre de COP21. Et actuellement, des mesures d'assignation à résidence ont été prises dans le cadre du mouvement de protestation contre la loi travail. Je crains que l'on assiste à une fuite en avant de mesures liberticides en mesure liberticide, sans efficacité réelle par-dessus le marché.
Ce nouveau dispositif qui permet la saisie et l'exploitation des données des téléphones portables et des ordinateurs risque en plus de noyer les enquêteurs sous une masse d'informations, notamment informatiques.
Le reportage de Cécile de Kervas-Doué. Côté enquête, la totalité des 84 victimes tuées dans l'attentat de Nice ont été formellement identifiées. Près de la moitié sont de nationalité étrangère. Une trentaine de personnes sont de confession musulmane selon des imams niçois. 5 personnes sont toujours en garde à vue ce matin, toutes inconnues des services de renseignement, tout comme le tueur au camion Mohamed Lawayesh Boulel. Son allégeance au groupe État islamique n'est toujours pas démontrée. Les djihadistes ciblés par la coalition internationale, ce matin, le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll indique que cette coalition prépare une attaque coordonnée contre les djihadistes basés en Libye et également à Mossoul en Irak. Après la loi prorogeant l'état d'urgence, l'Assemblée nationale devrait définitivement adopter le projet de loi travail aujourd'hui, avec certainement un troisième et dernier recours à l'article 49.3 pour faire passer le texte sans vote après 5 mois de contestation sociale. Les autorités allemandes doutent que l'auteur de l'attentat à la hache hier soit bien afghan. Ce jeune de 17 ans qui a blessé 5 passagers hier dans un train régional en Bavière pourrait être pakistanais. Les premiers éléments de l'enquête laissent penser que ce jeune réfugié s'est fait passer pour un afghan à son arrivée dans le pays en juin 2015 afin d'avoir de meilleures chances d'obtenir l'asile. Direction les États-Unis à présent. Le milliardaire Donald Trump a été officiellement désigné par le parti républicain comme son candidat à la Maison-Blanche pour l'élection de novembre prochain, Frédéric Carbone.
Il est 20h à Cleveland quand le patron des Républicains annonce le résultat du vote. 1727 voix en faveur de Donald Trump, largement plus que la majorité absolue. Trump a conquis le parti. C'est énormément d'émotion, dit ce délégué de New York, qui porte un badge avec Trump depuis le premier jour. Pas loin, venu du Colorado, un anti-Trump a au contraire le masque, et dans les rangs de la délégation californienne, on essaie de mettre de l'ambiance dans une salle assez sage. L'appel n'est pas entendu, Donald Trump a quitté Cleveland, mais il apparaît soudain sur un écran vidéo.
I'm so proud to be your nominee.
Je suis tellement fier d'être votre candidat, lance Trump depuis sa tour à New York. Il promet d'être là aujourd'hui et d'être le président du peuple. C'est le message que veut entendre ce délégué venu de Louisiane.
Il y a deux classes dans ce pays maintenant. Il y a les élites et moi et ma femme et mes amis. Nous payons beaucoup de taxes. Nous sommes l'Amérique. Moi, maintenant, c'est Trump.
L'enthousiasme n'est pas unanime, mais depuis la nuit dernière, Donald Trump est bien le visage du Parti républicain et à la tribune de la Convention, tous les dirigeants, même les plus sceptiques, ne parlent que du président Trump.
Frédéric Carbone, envoyé spécial de France Culture à la Convention républicaine de Cleveland aux États-Unis. La suite des purges en Turquie, représailles du président Erdogan après la tentative de putsch raté de la semaine dernière. Bonjour Alexandre Billette. Alexandre, vous nous entendez ?
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, après l'armée, la police et la justice, la répression est en train donc de s'étendre à l'enseignement et à l'audiovisuel.
Oui, tout à fait. Ce sont les deux derniers secteurs frappés par ces purges, par ce grand ménage, comme l'avait dit lui-même le président Erdogan ce week-end, qui veut éradiquer le virus terroriste et qui frappe désormais la fonction publique. Donc, en ce qui concerne l'éducation, ce sont plus de 15 000 fonctionnaires qui sont touchés, suspendus jusqu'à nouvel ordre. alors que les 1500 recteurs et doyens des facultés, soit l'ensemble des doyens des universités du pays, sont appelés à démissionner par le Conseil supérieur de l'enseignement turc. Par ailleurs, une vingtaine de radios, de télévisions ont perdu hier soir leur licence de diffusion des médias réputés proches de l'imam Fethullah Gülen, qui est présenté par le pouvoir turc comme le cerveau, en quelque sorte, de ce putsch raté. Donc les purges qui se poursuivent, on a de plus en plus de mal à tenir le compte, mais il y aurait eu depuis le début de cette vague au moins 60 000 personnes licenciées, suspendues ou arrêtées, une situation extrême qui touche désormais l'ensemble des fonctionnaires, puisque par exemple tous les fonctionnaires du pays, soit 3 millions de personnes, sont interdits de sortie du territoire jusqu'à nouvel ordre. Donc aujourd'hui, il faudra voir si ces mouvements se poursuivent, quels seront les secteurs touchés. Il faudra surveiller aussi attentivement ce qui va se passer à Ankara ce midi, puisque Recep Tayyip Erdogan a convoqué une réunion du Conseil de sécurité nationale pour la première fois depuis le putsch raté de vendredi. Le pouvoir turc, qui a déjà prévenu que des annonces importantes, des mesures importantes seraient communiquées à l'issue de cette rencontre extraordinaire.
Merci beaucoup Alexandre Billette, correspondant RFI pour France Culture en direct d'Istanbul. La première ministre britannique Theresa May se rend aujourd'hui et demain en Allemagne et en France. Visite officielle, ce sont ses premiers déplacements à l'étranger depuis sa prise de fonction, lors desquels elle devrait commencer à dessiner le calendrier du Brexit. C'est l'Europe qui va payer le plus lourdement les conséquences du Brexit. Justement, ce pronostic, c'est celui du FMI qui vient de revoir à la baisse ses prévisions économiques. La croissance devrait ralentir cette année dans le monde à 3,1% et l'année prochaine, la plupart des économies européennes ne feraient même pas 1,5% de croissance. Les incertitudes sont telles que les experts du FMI hésitent entre deux scénarios, l'un pessimiste et l'autre modérément optimiste, Jean-Marc Chardon.
Comme il est trop tôt pour évaluer sérieusement toutes les conséquences du Brexit, le FMI fait la part des choses. Dans le pire des cas, les économies avancées pourraient mordre la poussière et ne faire qu'1% de croissance l'année prochaine. Ce serait alimenter la désespérance que de se résoudre à un pareil recul. Ce n'est pas le scénario retenu par les experts. Ils tablent sur un simple ralentissement, mais qui serait tout de même sensible. L'Allemagne serait touchée, ramenée à 1,2%. Elle se retrouverait en duo avec la France et au coude à coude avec le Royaume-Uni à 1,3%. Au bout de quoi, l'on pourrait penser que le Brexit ne réussit aucun État en Europe, sauf que c'est le Royaume-Uni qui, en tombant de plus haut, perdrait près d'un point de croissance l'année prochaine, ce qui est considérable. En revanche, les turbulences européennes ne devraient guère affecter les autres économies, à commencer par les États-Unis, dont on a cessé de pronostiquer l'essoufflement économique. Il tournerait autour de 2,2% l'année prochaine, pendant que le Brésil et la Russie commenceraient à se relever et que la Chine garderait son cap, mais sans panache. Tout cela assorti d'une mise en garde, pourvu que les tensions géopolitiques n'enrayent pas le processus et que les banques tiennent le coup, notamment le système bancaire européen.
À 16 jours du coup d'envoi des JO 2016, la Russie ne sait toujours pas si ses sportifs se rendront à Rio, au Brésil. Hier, le Comité international olympique devait trancher, mais il a simplement annoncé qu'il allait explorer les différentes options juridiques. Alors pour Pim Verschuren, chercheur à l'IRIS, spécialiste des questions liées à l'impact du sport sur les relations internationales, le CIO est aujourd'hui bloqué, pris dans ses propres contradictions.
Comme les Jeux Olympiques ont pris une dimension aussi importante ces dernières années, bah forcément il y a des dimensions politiques alors que le régime qui le gouverne, les institutions et donc ici le CIO, sont officiellement et juridiquement neutres. Donc en fait on a une contradiction fondamentale et aujourd'hui le CIO est pris dans cette contradiction. Il a potentiellement un rapport et des accusations qui sont politiquement teintées. Pourquoi est-ce qu'on accuse la Russie alors que d'autres pays comme la Chine, le Kenya, la Jamaïque ont vraisemblablement aussi des politiques de dopage étatique. Mais au même moment où au niveau international on a des tensions vis-à-vis de la Russie qui renaissent, et ben on a des tensions qui renaissent également au niveau du mouvement olympique. Donc le CIO est pris dans une impasse ici parce que s'il suit la charte olympique, il doit punir l'ensemble effectivement de la délégation russe pour les faits qui sont en fait accablants. Sauf qu'il, par là même, il rentrerait peut-être dans un jeu géopolitique. Donc il est un peu coincé, et c'est pour ça qu'il a repoussé encore sa décision, et qu'il délègue d'une part la décision au TAS, au tribunal arbitral du sport, et en même temps aussi aux fédérations internationales qui individuellement vont décider ou non d'interdire les athlètes russes pour les Jeux de Rio, mais aussi pour les autres événements futurs.
Pim Verschuren, chercheur à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, il répondait à Thomas Schoner. Le temps de ce mercredi 20 juillet, les températures sont en très légère baisse. Plus que deux départements en vigilance orange pour de très fortes chaleurs, l'Allier et le Puy-de-Dôme. Cet après-midi, comptez de 24 à 28 degrés près des côtes, 29 à 33 sur la moitié ouest du pays, 33 à 36 dans l'Est, Olivia.